Voilà, donc comme promis, nous allons continuer sur le thème « Dieu est amour » pour la troisième partie de cette petite série qui se terminera la semaine prochaine. 1 Jean 4,16 « Nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Dieu est amour, donc je rappelle, alors ça fait la troisième fois peut-être, l'amour de Dieu n'est pas une quantité, c'est Dieu lui-même. Donc il ne tarira jamais. Nous allons reprendre le texte de Matthieu 11, 28 en le détaillant, faire juste un petit travail sur chaque verset. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Nous avions déjà vu ce texte en notant que Jésus, dans ce texte-là, nous révèle directement, lui, son cœur, doux et humble. Encore une bonne nouvelle. C'est-à-dire que Jésus est accessible à tous, quel que soit le vécu. Il est sûr d'être reçu par quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Il ne fait pas de reproches. Même quand il corrige, qu'il reprend, ce n'est pas une punition. Alors, premier terme, venir à Jésus, venez à moi. Jésus recherche, ça c'est extraordinaire, il recherche lui-même la communion avec nous, il désire nous rencontrer. Ce n'est pas nous qui disons, je vais essayer de m'approcher de Dieu, voir s'il me reçoit. C'est lui-même qui nous dit, venez à moi, venez à moi. Dans Luc 22, 15, il y a ce verset qui me frappe toujours, au moment de la Pâque, Jésus qui dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai vivement désiré. » Nous savons que Jésus a mis le comble à l'amour pour ses disciples en leur lavant les pieds. Il a mis le comble à son amour. Et là, dans ce repas, il a vivement désiré, il a voulu avec force célébrer cette Pâque avec ses disciples. Ça, c'est l'état de cœur de Jésus. Et nous ne pouvons pas venir devant lui par culpabilité, par devoir, parce qu'on est chrétien, donc il faut régulièrement venir à Jésus pour être libéré de nos fardeaux, être exaucé. Si c'est ça, c'est dur à porter, c'est fatigant, et ça ne crée pas de la joie. Nous venons avec lui animés par le désir de le rencontrer, pour être secouru, pour le louer, pour l'adorer, pour le rencontrer lui. À nous de dire, Jésus, ce matin j'ai vivement désiré venir te rencontrer. Je désire vivement te rencontrer. Et si ce n'est pas le cas, demandons-lui de créer cette vive joie en nous. Ou plutôt, peut-être, rappelons-nous quel est cet évangile auquel nous croyons. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il désire me rencontrer. Vous vous rendez compte, Dieu désire me rencontrer à travers Jésus. Premier point. Notre point. Vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Alors, quel fardeau ? On pourrait passer la matinée à les énumérer, bien sûr. Mais le fardeau, en résumé, c'est ce qui nous écrase et que nous n'avons pas à porter. Ce qui nous écrase et que nous n'avons pas à porter. Vous savez que toutes les bêtes de somme, les ânes, les chameaux, les chevaux, ont un poids maximum qu'ils peuvent tolérer. Sinon, ils s'effondrent. Et les disciples de Jésus, c'est pareil. Nous avons un poids, on va le voir, que Jésus met sur nous, mais que nous pouvons porter. Ce sera la différence. Le fardeau, c'est quelque chose qui va nous écraser, qui va nous peser, qui va faire taire la joie, qui va nous rendre... Je n'énumère pas toutes les conséquences parce qu'on les connaît dans nos vies. On les connaît. Alors, plusieurs fardeaux, j'ai pris quelques exemples. Bien sûr, le premier, le péché. Le péché, ce fardeau-là, nous n'avons pas à le porter, nous avons à le confesser et croire au pardon total. Il n'y a pas de péché impardonnable. Il n'y a pas de péché impardonnable. Même si la Bible en cite un, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, il n'y a pas de péché impardonnable. On l'a encore chanté ce matin. Le pardon de Dieu est total, quel que soit le degré de péché, le niveau. Parce qu'il y a les péchés. Alors oui, je suis moins pécheur que l'autre. Hein, et il y a le péché. C'est tout ce qui, à moi, lutte contre Dieu. Foncièrement, depuis Adam et Ève. Tout ce qui s'oppose à Dieu. Même religieusement, parfois. Voilà. Tout ce qui croit que Dieu s'est trompé en permettant ça dans ma vie. Il s'est trompé. On ne le dit pas. Mais on est en colère contre Dieu. Oui, ça, ça a échoué, tu vois, Seigneur. Alors, on en veut aux hommes, on en veut à ceci, on en veut à cela, mais est-ce qu'on n'en veut pas à Dieu, directement? Voilà. Donc, mes chers enfants, 1 Jean 2, 1-2, mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Oui, c'est quand même ça, hein. Le but, ce n'est pas de pécher un maximum, parce qu'on peut être pardonné un maximum. On ne se trompe pas. Je vous écris pour que vous ne péchiez pas. Mais si, toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il a apaisé la colère de Dieu. Voilà le cœur de l'œuvre de Christ. Le péché avait provoqué la colère divine sur l'homme. C'est ça, le péché, la colère divine. Et nous méritions la mort. Cette colère de Dieu était juste, et Jésus, par son œuvre, par le don de sa vie, a apaisé cette colère. Ce qui fait que le Père, aujourd'hui, nous voit juste. Le Père, il n'y a plus de colère. Il y a un amour paternel, il y a une adoption totale qui fait que cette colère, c'est fini. Ne croyez pas que Dieu est en colère contre vous. Parce que vous n'arrivez pas à triompher d'un certain péché dans votre vie. Je n'y arrive pas. Alors, Dieu, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a apaisé la colère de Dieu. Et l'œuvre du Saint-Esprit, ça sera de nous amener à la repentance, à confesser nos péchés, tout simplement. Alors, ça peut être dur hein, de confesser nos péchés, parce que ça nous fait mal à l'orgueil. Mais quelle libération de savoir que c'est déjà pardonné. Ensuite, il y a les fardeaux dont nous nous chargeons nous-mêmes. On est assez fort pour ça, persuadé de plaire ainsi à Dieu et aux autres, ou aux autres. On se crée des fardeaux, on se crée des obligations. On pense qu'on doit aimer tout le monde. Ah bon? C'est pas ce que dit l'Évangile. L'Évangile ne nous dit pas d'aimer tout le monde. Il nous dit d'aimer notre prochain. Vous n'aimez pas tel dirigeant à l'autre bout de la planète, c'est pas grave. Priez pour lui, vous n'êtes pas obligé de l'aimer, ce n'est pas votre prochain. On s'entend bien, on ne nourrit pas de la haine, c'est différent. Mais je n'ai pas, parce que aimer c'est concret, c'est poser des actes. Comment voulez-vous que je pose des actes envers un dirigeant à l'autre bout de la planète? À part prier pour lui, ça c'est clair. Donc ne nous trompons pas, oui j'ai pas assez d'amour, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de... Il faut se repentir de cette religiosité aussi. J'en fais pas assez pour Dieu. Je fais pas les bonnes choses pour plaire à Dieu. Je suis imparfait, encore trop imparfait. Bienvenue au club. Le problème, c'est pas d'être imparfait. C'est d'être pécheur. C'est pas pareil. Donc, nous nous mettons nous-mêmes parfois un poids, un fardeau, des choses, des obligations, des manières de faire qui ne sont pas celle que Dieu veut pour nous. Je vous laisse le soin de les repérer chez vous. Donc il faut se repentir de cette religiosité. Je veux plaire à Dieu par de pieuses pratiques. Je veux donner un peu plus. Je veux donner un peu plus au niveau financier. Je veux prier davantage. J'y arrive pas. Je veux prier davantage. Alors on se met un fardeau. Mais c'est pas, la pression ne nous fait pas prier davantage. Si on n'est pas dans une liberté de cœur, si l'on ne désire pas vivement rencontrer Jésus, on ne priera pas davantage. Et donc on se culpabilisera. Ensuite, il y a les fardeaux que les autres mettent sur nous. Les autres, c'est-à-dire toutes les attentes, les pressions, les critiques, les jugements, tout ce qu'on peut entendre de la part des autres et qui nous rabaisse. Il y a des gens qui ont ce don-là. quand on parle avec eux, ils sont toujours critiques. Ils sont toujours, c'est pas net, quoi. Il n'y a jamais de bonnes choses, de bonnes nouvelles dans leur vie. Ils nous le mettent dessus. Ils nous mettent un poids. Il y a des attentes qui sont injustes. On le sait parfois, les attentes de certains parents sur les enfants, de certains amis. Il y a cette attente qui nous oppresse. On ne veut pas déplaire. Alors, mais on veut pas plaire. Enfin, on est coincé dans cette machine-là. Il faut remettre les autres à leur juste place. Je n'ai pas dit simplement les remettre à leur place. C'est sûr. Parfois, c'est bien aussi. Mais il faut les remettre à leur juste place. Qu'est-ce que mon papa, ma maman peuvent attendre de moi quand j'ai 45 ans ? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de moi ? Par contre, si j'ai 8 ans, ils peuvent attendre des choses de moi. Ils ont le droit. Mon conjoint, qu'est-ce que mon conjoint peut m'imposer pour que je sois un peu plus parfait ? Alors je vais essayer, parce que j'aime mon conjoint ou ma conjointe. Donc, je vais essayer d'être un peu plus... Alors, je vais me mettre un poids, un fardeau, et je ne vais pas y arriver. Remettre les autres à leur juste place. Seul Jésus a une pleine seigneurie sur nous. Seul lui peut attendre de nous des choses. Parce que, selon le voir, sa charge est légère sur nous. Alors c'est un combat hein, de remettre les autres à leur juste place pour être libre. Libre de les aimer, libre de les servir, libre d'honorer son père et sa mère, même si on a une maman possessive ou un père abusif, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Parfois, il faut couper des relations. On n'entretient pas une relation nocive. On n'entretient pas une relation nocive, soi-disant par amour ou par respect. On n'entretient pas, on fuit une relation qui est nocive. Mais c'est un fardeau dont on n'arrive parfois pas à se libérer. On a connu des chrétiens même qui étaient prisonniers d'une relation nocive. On disait, mais coupe. Ah oui, mais tu comprends, ça va lui faire... Ben oui, ça va lui faire de la peine. Mais ce n'est pas le problème. Libère-toi de ce fardeau. Et il n'y a qu'en venant à Jésus. Et Jésus peut, avec grande gentillesse, nous dire, ne t'occupe pas de lui, je m'en occupe. Je m'en occupe. Toi, occupe-toi de moi. Il y a ensuite, bien sûr, les diverses épreuves que nous pouvons vivre. Et quand nous sommes dans l'épreuve, c'est un fardeau. Il y a des choses dures à porter. Il y a une chrétienne qui a vécu quelque chose de terrible, qui a vécu l'assassinat d'un de ses enfants par un homme. Bon. Et elle disait, alors les chrétiens ils sont très gentils avec moi, elle me dit, tu sais, on prie pour toi. Elle disait, mais moi c'est pas ça que je voulais. C'était qu'on me demande, qu'est-ce que Dieu faisait comme œuvre dans ma vie à ce moment-là. 1 Pierre 1, 6, 9. Voilà ce qui fait votre joie, donc vous lirez avant. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire, honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Le rôle de l'épreuve, c'est d'éprouver notre foi, de la solidifier, de la rendre solide, capable de traverser toute cette vie en étant vainqueur et rempli de joie. Le texte nous parle encore de joie. Ce Jésus que nous ne voyons pas, nous l'aimons déjà. Nous croyons en lui. Et déjà, nous sommes en espérant remplis de joie par l'œuvre qu'il fait à nous, parce que lorsqu'il apparaîtra, nous le verrons tel qu'il est, et notre joie, sûrement, là, sera parfaite. Mais quand on prie pour quelqu'un qui est dans l'épreuve, on prie que Dieu le bénisse, etc., que c'est le garde et tout, mais est-ce que on a cette vision de prier pour que sa foi, et ce qui va avec, son espérance, que sa foi résiste dans l'épreuve et même en sorte fortifiée. La dernière fois, je rappelais la prière de Jésus pour Pierre. Alors, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Non, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi ? Pour que le coq ne chante pas. Pour que ta foi ne défaille pas. Et Pierre a résisté, même si ça a été très dur pour lui, puisqu'il est revenu à Jésus après. Il est revenu à Jésus. Il était là, au bord du lac, à la fin de l'évangile de Jean. Il était là. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. C'est le trésor le plus... Parce que notre foi en Christ, c'est, et quand on y songe, c'est tout l'essentiel. C'est tout l'essentiel. Si nous avons foi en Christ, nous attendons à lui, nous venons à lui, nous croyons à lui, nous le confessons, nous le témoignons de lui. Voilà, donc il y a certainement d'autres fardeaux que vous connaissez pour vous-même, mais la clé, c'est de venir à Jésus ici. Ensuite, le repos ou le soulagement. Je vous donnerai, si vous venez à moi, je vous donnerai du repos, ou une traduction que j'aime bien, du soulagement. Ah, voilà, du repos, du soulagement. Donc, le repos, bien sûr, ça n'est pas l'absence d'activité. Maintenant, je ne fais plus rien, j'ai une chaise longue, mais je suis libéré. Psaume 81, verset 7-8, « J'ai déchargé tes épaules du fardeau, et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. » Allusion, bien sûr, à la captivité, à l'esclavage en Égypte. « Tu étais dans la détresse, tu m'as appelé, et je suis venu pour te délivrer. » Entrer dans le repos, c'est être délivré de l'esclavage, du péché. « Je t'ai répondu au sein du sein de l'orage, je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. » Ce repos, c'est le fruit de la réconciliation avec Dieu. Le repos n'étant pas cette absence d'activité ou cette oisiveté, mais la liberté d'être en communion avec le Père et d'être capable de le servir avec joie. Voilà. La liberté dans la Bible, je ne vais pas détailler. La liberté dans la Bible, c'est être libéré du péché pour servir Dieu. Ce n'est pas simplement « je fais ce que je veux, je respecte un peu la liberté des autres ». Bibliquement, ce n'est pas ça. La liberté, si on reprend l'histoire d'Israël, libéré d'Égypte, pourquoi ? Pour qu'il me serve au désert. Libéré pour servir. Alors, le joug est l'école de Jésus. Prenez mon joug. Ah zut ! On se dit, bon, il nous libère et tout, yabla. Mais il faut quand même faire quelque chose. Mais c'est tellement beau. Le joug est l'école de Jésus. Portez le joug de Jésus. Vous savez ce que c'est tous un joug ? Un joug. Hein, on ne dit pas un joug, on ne prononce pas. Un joug. Vous savez tous ce que c'est ? Voilà, c'est cette pièce de bois qui relie deux animaux, deux vaches souvent. Moi, j'ai vu faire ça, mes grands-parents attelaient les vaches pour aller travailler, poser le joug avec les lanières, avec tout cela. Et donc, les deux animaux sont reliés et tirent ensemble la charrue ou l'outil en question. Et il y a même un dressage. Parce qu'une vache, au départ, elle n'accepte pas d'être sous un joug avec une autre. Hein. Il y a un dressage des vaches pour qu'elles acceptent d'être dociles sous le joug. Ça parle, hein ? Voilà. Porter le joug de Jésus, c'est quoi ? Mais c'est d'accepter d'être constamment lié à lui, en communion avec lui, constamment lié à lui, quel que soit le moment de la journée, quelles que soient les circonstances. Et c'est en retour, être assuré qu'il est constamment avec nous. Parce que s'il nous demande d'être lié à lui, c'est parce que lui est lié à nous. Et c'est son désir. C'est son désir. Et nous savons ainsi que si nous sommes infidèles, si on se détache parfois du joug, lui reste fidèle. Et il désire se remettre avec nous. Il ne se décourage pas. Donc, alors cette charge, mon joug est ma charge. Ma charge est légère. Contrairement au fardeau, dont la charge, c'est ce que Jésus nous confie et que nous pouvons porter. Que nous pouvons porter. Jésus ne nous demande jamais quelque chose que nous ne pouvons pas porter dans la vie de tous les jours, dans les dons, le ministère, tout ce que l'on veut. C'est ce que lui pose sur nous. D'où l'importance d'écouter le Seigneur, de venir à lui pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu me confies ? Quel est le don, la tâche, le service ? Quelle est l'attitude que tu veux que j'aie dans telle circonstance ?» Voilà. Et là, je vais porter une charge qui va être légère parce que c'est lui qui me l'a mise et qu'il va être avec moi pour l'accomplir avec moi. Ça, c'est important. Tout ce que nous faisons, il le fait pour nous. Voilà. Faisons tout comme si ça dépendait de nous, tout en sachant que ça dépend de Dieu. C'est dans ces conditions que nous pouvons porter du fruit réellement. On n'aura pas un fruit amer. On sera heureux dans notre activité. Vraiment. Même s'il y a des oppositions, s'il y a des luttes, s'il y a des bagarres. Parce que je porte la charge que Jésus m'a donnée. Et je ne veux pas en descendre. Je ne veux pas la lâcher. Par contre, un fardeau trop lourd, je veux m'en échapper. Son école. Alors, l'école de Jésus, eh bien, c'est tout simplement une formation en alternance. C'est écouter ce qu'il dit pour le mettre en pratique. Matthieu 7, 24, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. La formation en alternance, aujourd'hui très développée, un peu d'école et beaucoup ensuite dans l'entreprise, au travail. C'est ça. Si avec Jésus je reste toujours sur les bancs de l'école, ça va être fatigant pour lui, pour nous, pour tout le monde. Ce que j'apprends, ce que j'entends de sa parole, que ce soit dans ma lecture biblique, dans les chants, dans la prédication, ce que j'entends et qui me parle tout d'un coup, je dois ensuite sortir de l'école, quitter. Alors ici, on a des bancs de l'école, voilà. On a des bancs. On sort de ces bancs pour aller le vivre dehors. Et là, on est dans l'école de Jésus, on progresse et on bâtit la maison, notre vie sur le roc. Sur le roc. C'est pas simplement la foi, c'est une foi qui pratique. Voilà. Donc, retenez, une formation en alternance. Est-ce que je suis constamment à l'école ? Alors, bien sûr, si on n'est que sur le terrain et qu'on n'a rien appris, ça va être catastrophique. Donc, il nous faut de l'école. Donc, il nous faut ouvrir la Bible un peu, la sonder, l'étudier et connaître quand même un petit peu ce que Dieu nous dit. Voilà. Doux et humble. Je reviens à doux et humble parce que je suis doux et humble de cœur. Et c'était annoncé. Il y a deux prophéties dans Zacharie et Malachie qui nous disent, Matthieu 21, 5, on le voit dans Matthieu 21, 5, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il vient à toi, ton roi, plein de douceur. » Il est venu dans la douceur. Et Zacharie 9, 9, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, donc c'est cet aspect de la victoire de Christ et de sa justice, et il est humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Quand Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur », il était déjà annoncé. Et pour quelqu'un qui l'entendait à l'époque, bon, même si dans un premier temps c'était difficile à interpréter toutes ces prophéties, il ne pouvait que voir qu'il ne faisait que accomplir ces paroles-là de Dieu. Il n'est pas venu autrement. Il n'est pas venu avec colère. Il n'est pas venu de cette manière-là, mais avec douceur et humilité. Et bien sûr, Jésus est compatissant. Compatissant, nous pouvons nous approcher de lui sans crainte. Sans crainte. Humble de cœur. Doux, c'est de la compassion. Jésus est quelqu'un de compatissant. Nous pouvons nous approcher de lui sans crainte. Il nous comprend, on l'a vu la dernière fois, hein, il compatit. Il compatit parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a vécu énormément d'épreuves, d'opposition. Et comme nous, il a été tenté en tout, dans les tentations. Et donc, il peut nous comprendre. Quel que soit ton souci, ton problème, ta tentation, il la comprend. Il ne la juge pas, ça c'est déjà fait. Il la comprend. Et donc je peux venir sans honte devant lui. Sans honte devant lui. Il compatit. Je l'ai repris dans Hébreux 4, verset 14-16. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, venez à moi, et du Dieu de grâce, pardon, avec une pleine assurance. Une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté Dieu nous accorde sa bonté, en plus. C'est fou quand on songe à la quantité de miséricorde, de bonté, de grâce, de douceur, d'humilité. Et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Approchons-nous donc sans crainte, sans honte, sans peur. Autant de fois qu'il le faut, le chemin est ouvert. Et le grand prêtre Jésus compatit en tout, en tout. Ça, c'est extraordinaire. Ça, si ce n'est pas la source d'une joie profonde, je ne sais pas si on se rend compte, si on mesure la profondeur de ces textes-là, de ce cœur de Jésus, le cœur de Jésus, venez à moi. C'est pourquoi n'importe qui a fait n'importe quoi, comme Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Voilà. C'est en faisant n'importe quoi, quoi que l'on ait fait, on peut venir à Jésus sans crainte de prendre la foudre ou un jugement. Et si on n'est pas encore venu à Jésus, ben on peut le faire. Conclusion. Alors j'ai une citation d'un puritain encore du XVIIIe siècle, John Flavel. Rappelez-vous que ce Dieu, qui tient toutes les créatures dans sa main, est votre Père, et se montre beaucoup plus tendre que vous ne l'êtes, ou ne pouvez l'être envers vous-même. Il y en a parmi nous qui sont il y a des gens qui sont tendres, qui sont aimants, qui sont, vous savez, mais Dieu, c'est encore au-delà. Nous, on a des limites, mais là, c'est au-delà. Encore plus, parce qu'il est votre Père. La tendresse et la douceur qu'il vous témoigne dépassent la tendresse et la douceur dont vous êtes capable envers vous-même. Le cœur de Christ est doux et humble. Or, voilà l'image parfaite du Père. Le Père lui-même vous aime, Jean 16, 27, le Père lui-même vous aime en Christ. On est vraiment dans une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour. Ce n'est pas de la romance, hein. C'est une histoire d'amour qui nous concerne au plus haut point. Si nous sommes fatigués, chargés, parce que nous avons beaucoup marché, parce que y a beaucoup de choses qui se sont passées dans nos vies, on n'est pas toujours content de soi, etc. etc. On peut être renouvelé profondément en venant à Christ, en venant à Jésus chaque jour, en venant auprès du Père en Christ, en venant devant le Père, dès le matin. Après, c'est trop tard. J'écoutais un général américain qui disait « La première chose que vous devez faire en vous levant le matin, personne ne l'a entendu, non ? C'est faire votre lit. Faire votre lit. Parce que vous avez fait quelque chose dès le matin. Et si vous n'avez rien fait de votre journée, vous pourrez dire « Ah oui, mais ce matin, j'ai fait mon lit. » C'était juste pour dire, c'est humoristique, mais pour dire que dès le matin, beaucoup de choses se jouent. Je finirai là-dessus. Dès le matin, beaucoup de choses se jouent. On se lève du pied gauche, il y en a qui ont l'humeur massacrante le matin, tant qu'ils n'ont pas bu le café, etc. Mais tout ça, c'est des blagues. Le matin, réveillez-vous, asseyez-vous sur votre lit avant de vous lever. Assis, pendant 30 secondes. Et dites Jésus ce matin, je viens à toi. Je suis d'une humeur massacrante, mais ça tu le sais. Aujourd'hui, tu peux me conduire, tu peux me guider. Chacun sa prière, hein. Chacun. Et là, vous êtes sûr de démarrer la journée du bon pied. Je vous l'assure, je l'ai expérimenté, ça marche. La prochaine fois, je vous donnerai la version du soir. Mais bon. Voilà, amen. Amen.